Bénissons le Seigneur. Bonjour à vous mes frères et sœurs. Je remercie spécialement le déroulement du culte jusqu'à ce maintenant. Je bénis le Seigneur pour les serviteurs que vous êtes. Je ne sais pas comment les autres ont ressenti. Mais merci Seigneur, tu nous conduis. Tu nous conduis dans tes voies. Merci à vous d'être sensible à Dieu et de nous conduire ainsi. Mes amis, j'ai un poids dans mon cœur, c'est pas moi qui devais prêcher aujourd'hui, mais j'ai eu vraiment ce fardeau. Et j'ai dit à Laurent dimanche que j'allais partager le fardeau qu'il y a dans mon cœur, parce que ne pas le partager, c'est un peu comme si je me mettais en porte-à-faux devant le Seigneur. C'est un peu comme si je refusais une mission que le Seigneur me donnait. Et ça, je ne le veux pas. Alors, je vais vous partager ce qui pèse dans mon cœur depuis quelque temps. Je l'ai un peu partagé à mon peuple, que les membres de mon peuple m'excusent. Ils réécouteront encore. Qu'ils soient bénis aussi. Vous vous posez la question, j'ai un micro là, j'ai un deuxième micro qui est allumé. C'est parce que je vais appeler ma sœur Marjorie et Maïlis. Elle est là, Marjorie? Elle est là. Non, elle est là. J'appelle ma sœur Marjorie et Maïlis. Vous avez vu la merveilleuse Maïlis? C'est pour toi le micro, Marjorie.
Moi?
Viens près de moi, ma sœur. Voilà. Une fois n'est pas coutume, hein. Je vais prier d'abord. On va prier en deux. Seigneur notre Dieu, tu es notre Père. Merci pour ta parole, notre Dieu. Oh Seigneur, comme nous aimons ta parole. Comme nous avons soif de toi. Comme nous voulons plus de toi. Seigneur, je te supplie. Libère ta parole. Ouvre nos oreilles pour qu'elles soient attentives. Fais-nous garder ta parole. Que l'ennemi qui vole la parole soit repoussé au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je te prie que tout obstacle à ta parole soit maintenant renversé au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je proclame que ta parole ne rentre pas à elle sans avoir accompli ce pourquoi tu l'as envoyée. Et je te bénis d'avoir pensé à nous et de nous avoir donné ta parole. Merveilleux trésor, au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, glorifie Jésus-Christ au milieu de nous. Amen. Voilà, vous avez vu Maïlis. Super. Alors, tu peux montrer la deuxième photo, s'il te plaît. Évidemment, vous posez la question, son papa, Alexis, n'est pas là, mais c'est avec toute sa bénédiction que j'appelle Maïlis et Marjorie ici. Il demande qu'on l'excuse parce qu'il est de ses grands-parents qui vont déménager. Quoi. Donc, voilà, comme ça, vous savez. Voilà, on peut remonter Maïlis, la première photo. Mes amis, voilà Maïlis. Elle s'appelle Maïlis Montes. Elle porte le nom de son père. Elle est enfant d'Alexis et de Marjorie. Enfant naturel, oui. Sans aucun doute. Enfant naturel. Même pas adopté. Enfant naturel. Elle est où? Elle vit où? Elle est officiellement, légalement domiciliée chez ses parents. Parce que elle est leur fille. Elle est la fille unique. Elle est sans aucun doute l'héritière de tout ce que Marjorie et Alexis ont. Super, Maïlis. Qu'est-ce que c'est prometteur, un avenir prometteur pour elle. Elle ne sait pas, mais elle est appelée à de grandes choses. Elle est bien disposée. Mais je voudrais dire quelque chose. Marjorie, est-ce que tu peux donner un couteau à Maïlis? Tu peux reprendre sur le micro.
Non, bien sûr. Non.
Voilà. Deuxième question. Marjorie, quand tu rentres de faire tes courses, tes emplettes, avec des sacs chargés, est-ce que tu peux donner un sac de 10 kilos à Maïlis?
Bien sûr que non.
Marjorie, de temps en temps, nous avons des orages, des tempêtes. Est-ce que tu peux dire à Maïlis, ma chérie, va au premier étage et ferme Les châssis fermes et tendues. Est-ce que tu peux la laisser si elle s'approche des châssis ouverts?
Non, bien sûr que non.
Marjorie, maintenant elle ne te le demandera pas encore, mais bientôt elle aura 7-8 ans, par la grâce de Dieu. Est-ce que, quand elle va te voir conduire, est-ce qu'elle va te dire, maman, maman, donne-moi les clés, je veux conduire. Est-ce que tu lui remettras les clés de la voiture?
Non.
Est-ce que son papa, qui est fort manuel, qui porte, qui est costaud, colosse, qui rentre épuisé, fatigué, avec sa boîte à outils, et parfois porte des grandes choses, des chaudières, des chauffages. Est-ce que son papa va lui donner un chauffage, une chaudière, sa boîte à outils pour qu'elle porte?
Non.
Voilà. Alors, merci Marjorie, mais je souhaite que, plus tard, Maïlis fasse partie de ses enfants qui aident papa, qui aident maman, qui, quand il y a l'orage, la tempête, et papa et maman ne sont même pas là, elles courent, elles ferment tout, qui voient, papa et maman vont rentrer, elle a 17 ans, elle dit, oh, il faut que je prépare un petit quelque chose pour papa et maman. Je souhaite cela. Et je souhaite que...
Amen.
Je souhaite que, quand elle voit les intérêts de son père et de sa maman, elle voit, on va dire quoi, s'il y a un petit potager, des oiseaux, elle voit des animaux, qu'elle aille, et avec ses petites mains, ses petits doigts, qu'elle ait envie de chasser ces oiseaux. Je souhaite que brûle dans son cœur une envie de défendre les intérêts de papa et de maman. Quelqu'un qui veut rouler papa ou maman, elle se rend compte, non, ça ne sera pas ainsi. Voilà. Mais pour l'instant, comme vous l'avez compris, il y a beaucoup, malgré sa bonne volonté, il y a beaucoup d'incapacités. Elle est enfant, sans aucun doute. Sans aucun doute. Elle s'appelle Montes. L'ADN, on peut même aller chercher, fouiller, on peut aller tester. C'est l'ADN du père et de la mère. Personne dans ce monde ne peut refuter qu'elle est enfant Montes, Montes de Rouveur. Et ça, c'est une vérité. Mais malgré qu'elle soit enfant Montes de Rouveur, malgré qu'elle soit l'héritière totale, elle est encore incapable de faire beaucoup de choses. Merci Marjorie, merci Maïlis, que notre Dieu te bénisse. Voilà, voilà, merci. Que notre Dieu te bénisse. Vous voyez que...
Ça fait 13 ans, 14 ans.
Mon micro est tombé. Ok, personne n'a entendu. Bon, merci. Vous voyez que je n'ai pas l'habitude, je disais. Ça fait 13, 14 ans que je l'ai fait, que j'ai porté. Et ça se voit vite, en tout cas. Alors, mes amis... Je vais vous parler de quoi? De la croissance. De la croissance chrétienne. J'ai simplement essayé d'illustrer ce que je voulais dire par l'exemple avec Maïlis qui s'est si bien prêté au jeu. Mes amis, pour bien commencer, pour bien faire, il faut toujours aller au commencement. Chrétien, qui dit chrétien dit Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Maître, notre Seigneur. Depuis le péché, monde complètement corrompu. Et Dieu dit, je vais envoyer mon fils. Il va rétablir toutes choses. Je vais envoyer mon fils. Je ne vais pas l'envoyer comme un dieu. Je vais l'envoyer comme un homme. Puisque c'est un homme qui a perdu en Éden, lui, mon fils, homme, pleinement homme, il va remporter la victoire devant cet ennemi farouche, devant ce diable. Et tout l'Ancien Testament, toute l'histoire, je ne vais pas détailler ça parce que ce n'est pas le but, je vais aller droit au but. Toute l'histoire de l'Ancien Testament converge vers l'arrivée de Jésus-Christ. Tout le monde a vu le déferlement de la puissance des ténèbres depuis Adam. On n'a même pas attendu 3-4 générations, juste après le péché, Le premier fils Caïn, son petit frère Abel, il fait quelque chose, il n'est pas approuvé par Dieu, et il dit, première génération, il dit à son frère, viens, allons dans les champs. Ils vont dans les champs, parce que son sacrifice n'a pas été agréé, et le sacrifice de son frère a été agréé, il le frappe, il le tue. Déferlement de la puissance du diable. Et ça a été comme ça. À un moment donné, Dieu a dit, Dieu était tellement triste, et il a dit, mon esprit ne restera pas toujours. Dieu a dit, ça ne va pas, il y avait une perversion de l'espèce humaine, telle que Dieu a dit, je ne peux pas continuer. Et il a envoyé le déluge, tout ravagé. À un autre moment, face à des gens complètement impies, sans Dieu, sans crainte de Dieu, sans crainte et respect des hommes et des femmes, dans la ville de les villes et les entités de Sodome et de Gomorre, Dieu dit, ça ne peut plus continuer comme ça. Et il détruit. Mais il dit, mon serviteur va arriver, mon fils va arriver, il va avoir la victoire. Parce que de tout temps, Dieu a pensé avoir des enfants, des fils et des filles, comme Jésus-Christ, vous et moi. Et Dieu annonce qu'il va arriver ce Messie. Alors, les Juifs, les Israélites qui étaient tellement dans les voies de Dieu, dans les plans de Dieu, ils le savaient, ils le pressentaient. Et ils attendaient une seule chose, l'arrivée de Jésus. Ésaïe nous dit, on peut montrer le texte, le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, si c'est un peu trop fort, faites-moi signe, hein, parce que je ne m'entends pas. Le peuple qui habitait le pays de l'ombre de la mort, sur ceux qui habitaient le pays de l'homme de la mort, une lumière resplendit, car le joug qui pesait sur lui, c'est-à-dire le fardeau, le poids, la charge, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises comme à la journée de Madian. La journée de Madian, c'est une journée de grande victoire. Laurent en parle souvent, en tout cas. Tu les brises, une victoire mémorable. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. C'est Jésus. Les Israélites attendaient celui-là. Et parce qu'ils savaient que Ésaïe avait écrit, parlant de lui, on peut montrer le deuxième test, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Tous les malheureux, sachez que c'est moi que l'Éternel a oint. Jésus, je parle en face de Jésus. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel, pour publier un jour de vengeance de Dieu. Vengeance contre qui? Pas contre les hommes, mais contre celui qui a osé défier l'autorité de son père, l'ennemi, le diable. Un jour de vengeance contre lui et toutes ses œuvres, contre lui et toutes ses manifestations, contre, il est aussi l'ennemi de nos âmes. Et Dieu a oint Jésus pour déclarer, proclamer un jour de vengeance de Dieu, pour consoler tous les affligés, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre. La cendre, ça veut dire, ça signifie le deuil. Une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Voilà Jésus. On attendait tellement ce Jésus. Et quand il arrive sur la terre, il y a un concert d'anges. On peut monter le texte suivant, Daniel, s'il te plaît. Les anges disent aux bergers, aujourd'hui, dans la ville de David, vous avez votre sauveur. Il est là, il est né. Il est le Christ, celui qui est tant attendu. Il est le Seigneur. Et les anges, c'est pas eux qu'on sauve, hein. Mais ils sont tellement joyeux et ils se mettent à chanter, à glorifier un cœur céleste. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Jésus est né, il est bel et bien né, sur la terre. Quelques jours après, il est présenté, comme c'était la coutume, au temple. Mais étonnamment, la Bible est très, très... On dit qu'à un moment donné, on veut le tuer, il fuit en Égypte et puis il revient. Mais la Bible est muette, quasi muette, sur l'espace de temps, entre après la naissance là et ses 12 ans. La Bible ne dit rien. À 12 ans, pendant qu'ils vont toutes les années pour les fêtes rituelles, en tout cas, du peuple, quand il va à la fête, cette fois-là, il ne retourne pas avec ses parents. Ses parents croient qu'il est avec d'autres personnes. 3 jours, quand ses parents le retrouvent dans le temple, paniqués, Jésus leur dit, ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Ne savez-vous pas qu'il faut, pourquoi me cherchez-vous? Je dois m'occuper des affaires de mon père. Quelle motivation? Quelle détermination? Quelle volonté? Quel désir ardent? Je veux m'occuper des affaires de mon père. Waouh! Mais je vais vous dire quelque chose. Malgré sa motivation, malgré son appel, malgré sa destinée, écrite de long en large dans la Bible, prophétisée de long en large, à 12 ans, il est tellement conscient qu'il faut qu'il s'occupe des affaires de son père. Je vais vous dire quelque chose. On ne le voit nulle part guérir, sauver, ressusciter des morts, faire cette chose-là qui ont été prophétisées sur lui. Entre 12 ans et son baptême, plus ou moins 30 ans, on ne voit Jésus. Tu dis qu'il faut que tu t'occupes des affaires de ton père. Jésus, il y a plein de possédés. Il y a plein de possédés dans la ville. Jésus, il y a plein de veuves qui ont perdu leur enfant. Jésus, nous sommes terrassés par la faim, la famine, les maladies incurables. N'y a-t-il pas des malades? N'y a-t-il pas des possédés? N'y a-t-il pas des lépreux? N'y a-t-il pas des personnes qui ont besoin de la grâce de Dieu? Vous savez tous comme moi que la réponse, il y a une seule réponse. Oui, il y en avait! C'est pour cela qu'un jour, Marie excédée, elle dit au serviteur, allez voir, allez le voir, pour son premier miracle. Et même là, il lui dit, oh, mon temps n'est pas encore venu. Et pourquoi donc n'a-t-il pas fait toutes ces choses? Pourtant, il était appelé à les faire. La réponse, mes amis, c'est la croissance. La réponse, c'est la croissance. La réponse, c'est la croissance. La réponse, c'est la croissance. Il y a un verset que... Verset d'après, s'il te plaît. La Bible nous dit, Jésus croissait en sagesse, en stature, et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Pas seulement devant Dieu, devant Dieu et devant les hommes. Il ne faisait rien d'extraordinaire, mais il croissait. C'était le temps de la croissance. C'était le temps de la croissance. Il n'a pas ressuscité, il n'a pas guéri, il n'a pas chassé les démons. Mes amis, alors je vais vous dire quelque chose. Le Père a attendu une certaine croissance avant de conduire Jésus au désert, affronter le diable. Le Père l'a attendu. Est-ce que le Père ne voulait pas sauver si, de tout temps? Parce que tout ce que Jésus fait, il dit, je ne fais que la volonté de mon Père. Et le Père ne change pas. Il est constant, il est le même. Le Père a attendu une certaine croissance avant de laisser Jésus confronter les puissances démoniaques. Avant de laisser Jésus affronter les tempêtes, les maladies incurables, la mort, le Père a attendu. Bien qu'étant fils, bien qu'étant venu de Dieu, bien qu'ayant eu toutes les promesses, il est passé par la croissance. Et qui dit Jésus, qui dit chrétien, dit de Jésus. Nous sommes chrétiens. Aujourd'hui, je parle à des chrétiens. Si vous n'êtes pas chrétien, et que vous voulez vous donner à Jésus, après vous pouvez avancer, voir les anciens, les responsables, et on peut avoir un entretien, prier pour que vous entrez dans cette grande famille, dans cette famille merveilleuse, dans cette famille bénie. Mais je parle surtout à des chrétiens aujourd'hui, à ceux qui ont Jésus dans leur cœur, à ceux qui ont dit à Jésus, tu es notre Dieu, tu es notre sauveur, tu es mort à la croix, on t'a percé, on t'a humilié, on t'a frappé, c'était pour mon péché, je te demande pardon, et je veux te suivre. Ma vie, c'est toi. Ma vie, je ne vis plus que pour toi. Je parle. Si tu es dans ce cas-là, c'est à toi que je parle. Et je pense de tout mon cœur que si Dieu m'a mis ce fardeau dans le cœur, c'est qu'il y a plusieurs personnes qui en ont besoin. Nous sommes chrétiens, nés de nouveau par l'Esprit de Dieu. On ne peut voir le royaume. On ne peut faire des choses célestes que si nous sommes nés de l'Esprit de Dieu. Que si nous avons remis notre vie entre les mains du Seigneur. Quand nous nous donnons à Dieu, la Bible dit que nous sommes des bébés en Christ. Des bébés en Christ. J'ai fait venir Maïlis. J'ai parlé avec, j'ai interrogé sa maman. Et je voulais simplement éveiller votre cœur, votre intelligence, votre esprit à la croissance physique. Il y a une allégorie spirituelle. La croissance spirituelle. Il y a une comparaison. De même que dans le physique, on naît, de verbe naître, on croit, de la même façon, on passe par les stades de bébé, enfant, jeune homme, jeune femme. De même dans le spirituel, il y a cette croissance-là. On est bébé, on croit, on devient enfant, et on devient jeune homme, jeune femme. Oh, mes amis, je vous avoue quelque chose. Comme je me suis souvent trompé, j'ai cru pendant longtemps que le but en soi, c'était de pousser des gens, des non-chrétiens, de les conduire à accepter Christ. C'est beau, c'est merveilleux. Mais une fois qu'ils avaient fait cette prière-là, Seigneur, nous te demandons pardon, nous avons de nos péchés, Seigneur, nous reconnaissons que tu es mort pour nous, Seigneur, tu es le Créateur, tu as tout fait, et tu es venu sur la terre pour nous sauver. Merci Seigneur, je te demande pardon, je te remets ma vie et je veux te suivre. Et une fois que les gens acceptaient Jésus-Christ dans leur vie comme ça, on disait, hurrah, youpi, gloire à Dieu. On peut se reposer, on peut entrer dans la joie du Maître, on se focalisait sur la naissance. Et pour nous, pour moi, presque tout était accompli. On faisait des enfants et on pensait avoir terminé le travail. Et parfois, même qu'il ne venait pas à l'église, aux réunions et tout, on disait, il est né de nouveau, il est chrétien, il est... Mais pas, mes amis, je vais vous dire quelque chose. Parfois, on accepte, mais c'est cérébralement, et ce n'est pas dans le cœur. C'est la croissance qui confirme que ce qu'on a entendu, ce qu'on a fait, c'est vraiment vrai. On est vraiment enfant de Dieu. Vous allez me comprendre. Donc, je dis, Seigneur, pardonne-moi, parce que pendant longtemps, j'ai travaillé, mettant vraiment mon énergie à la naissance, à la naissance, à la naissance, et j'ai oublié le reste. Jésus dit, faites des disciples, mais il ajoute, enseignez-leur à obéir, à faire tout ce que j'ai dit. Quand j'ai parlé de ça au peuple, dans notre groupe de prière et de partage, un frère m'a dit, mais c'est même plus facile de faire un bébé que de s'occuper de sa croissance et de son éducation. Très vrai. Il a dit, c'est une partie de plaisir de faire un bébé, c'est rien du tout pour que le bébé soit là conçu. Mais une fois qu'il naît, qu'il croisse pour qu'il croisse normalement et qu'il ait la bonne éducation, ça c'est autre chose. La Bible va jusqu'à dire que Jésus a qualifié des personnes. On peut monter l'autre texte, s'il te plaît. Je ne sais pas, vous l'avez peut-être pas celui-là. Éphésiens 4, 11, tu ne l'as pas? Voilà, je vais le lire. La Bible dit que Dieu, quand il fait des bébés, Éphésiens 4, 11 à 14, il pense à ces bébés-là et il ne veut pas qu'ils restent bébés. De la même façon que Marjorie ne veut pas que Maïlis reste toute bébé, elle veut qu'elle grandisse, Dieu pense aux bébés. Et pour cela, il pense à leur croissance, pour cela, il équipe l'Église. La Bible dit qu'il a qualifié et il a donné des uns dans l'église comme des apôtres, des autres comme des prophètes, des autres comme des évangélistes, des autres comme des pasteurs et des docteurs. Nous sommes tous à votre service pour le perfectionnement des saints, pour en vue de l'édification du corps de Christ, en vue de votre fortification, de votre croissance, pour que vous soyez à l'état d'homme fait, à la mesure de la statue parfaite de Christ, afin que, vous pouvez retenir ce verset-là, Éphésiens 4, 14, pour un but, afin que nous ne soyons plus des enfants, afin que je ne sois plus un enfant, afin que vous ne soyez plus un enfant, flottant et emporté à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Vous comprenez, mes amis, le tout n'est pas d'être enfant. Le tout n'est pas de naître. Le tout n'est pas de dire, je suis chrétien. Tu peux être chrétien. Je l'ai dit et je l'ai fait dire à Marjorie. Elle est enfant, c'est, Maïlis, c'est enfant, c'est indéniable. C'est irréfutable. Mais elle ne peut pas faire beaucoup de choses. Or, enfant, on est flottant, on est emporté. On est facilement, on est vulnérable. Et la Bible dit, merci pour le verset là, que de Galates. Voilà. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître. C'est la Bible, c'est pas Espoir qui le dit. Aussi longtemps, nous sommes les héritiers, nous sommes les enfants, nous sommes la fratrie de Jésus-Christ. Mais aussi longtemps que nous sommes, que nous restons des enfants, nous ne pouvons pas jouir de l'héritage. L'enfant ne discerne pas le bien du mal. Un enfant de 6 mois, il peut aussi bien mettre sa main dans son pampers et le mettre à la bouche. Un pampers pas propre, hein. Si c'est propre, c'est pas grave. Un enfant a besoin de tuteurs et de nourrices. Toujours. Sinon, on ne sait pas ce qui va arriver. On ne sait pas ce qu'on va retrouver. Un enfant ne peut avoir aucune responsabilité. Un enfant est vulnérable, flottant, instable. Un enfant est roulé dans la farine par les hommes, par le diable. Parfois même, on voit des enfants aller avec des étrangers qu'ils ne connaissent pas. Parce que l'étranger a un beau sourire. Parce que l'étranger a une pomme, une banane. Un enfant, vous l'aimez tellement, votre enfant de 6 mois. Je sais que c'est votre trésor. Vous avez même plus de 10 000 euros. Mais vous lui donnez rien, un billet de 100 euros? Peut-être. Si vous en... vous ne lui donnez rien? Vous savez ce qu'il va faire avec? C'est ça, mes amis, c'est ça que je suis en train de vous dire. Qui enfant il est? Je veux vraiment insister là-dessus. Enfant, il est bel et bien. Mais il y a beaucoup de choses qu'il ne sait pas faire. Je peux montrer le verset d'après, s'il te plaît, ma très chère collaboratrice? Voilà. Paul qui parle à des chrétiens. Paul parle à des chrétiens, à l'église de Corinthe. Je lis, pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter, et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, des disputes, n'êtes-vous pas charnels, et ne marchez-vous pas selon l'homme? Il nous apprend 2 choses ici, ou 1 chose principale. Ce sont des chrétiens. Mais il fait la part entre 2 catégories d'hommes, ou 2 catégories de femmes. L'homme spirituel, l'homme charnel, enfant en Christ, et l'homme spirituel. Et il dit, vous êtes tous enfants. Et après il dit, vous êtes charnel. Et il dit, vous n'êtes pas spirituel. Vous comprenez, mes amis? L'homme spirituel, c'est celui qui n'est pas enfant, qui n'est pas charnel. L'homme charnel, c'est le chrétien. C'est le chrétien. Mais c'est le chrétien qui est encore enfant, qui n'a pas grandi, et qui a encore en lui tellement de choses de l'ancienne nature, et qui encore ça se manifeste par des disputes, par de la jalousie, et il ne peut pas supporter. Il est au lait. Vous voyez? Allégorie, comparaison, comme la croissance physique. Il est au lait. Il ne peut pas avoir la nourriture solide. Un bébé de 1 mois, donnez-lui un morceau de steak et vous allez voir ce qui va arriver. Il est au lait. Et Paul dit, vous êtes chrétien, vous êtes enfant de Dieu, mais pour vous, je vous trouve encore enfant, charnel, homme charnel. Quand il introduit homme spirituel, il veut que vous soyez homme spirituel. On peut montrer le verset d'après. Il dit après, l'homme spirituel, au contraire, juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Voilà le chrétien qui grandit, qui a une certaine degré de maturité. La Bible l'appelle l'homme ou la femme spirituelle. Il sait même juger. Beaucoup de chrétiens disent, tu ne peux pas me juger, tu ne peux pas juger. C'est pas ce que la Bible dit vraiment. L'homme spirituel, il est juge de tout, il n'est jugé par personne, il connaît la pensée du Seigneur. Et pour compléter, ça ne fait pas partie de la prédication, la Bible parle de 3 catégories d'hommes. J'ai parlé ici des catégories d'hommes chrétiens. L'homme chrétien, mais encore enfant, il est un homme charnel, manipulé, rempli parfois par les pressions, les désirs de sa chair, il ne sait pas encore faire la part des choses. Quand il grandit, et il devient homme spirituel, quand il grandit spirituellement, je ne parle pas de la taille physique, il devient homme spirituel, femme spirituelle, qui est propre au royaume de Dieu. Et pour ceux qui ne sont pas chrétiens, la Bible les appelle des hommes. Quelqu'un sait comment la Bible les appelle? Autre chose. La Bible appelle l'homme animal. L'homme animal. L'homme, et la Bible dit de lui, pour vous dire qu'est-ce que j'ai dit, je ne le prends pas hors de la Bible. La Bible dit l'homme animal n'a pas l'esprit de Dieu, il ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu. Donc c'est clair. Il y a l'homme animal qui est l'homme non chrétien, il est comme un animal, même s'il est un homme, mais il réfléchit en fait, il est corrompu par le péché, c'est ça que ça veut dire. Et puis il y a, quand on devient chrétien, l'homme charnel ou la femme charnelle et l'homme spirituel et ou la femme spirituelle. Donc, si nous restons enfants, mes amis, nous restons souvent charnels. Des disputes. T'as vu comment? Oh, on m'a pas laissé parler. On m'a pas laissé prêcher. On m'a pas laissé chanter. Pourquoi c'est toujours elle qui est la soliste? Pourquoi c'est toujours lui qui fait ceci? Oh! C'est ça. C'est ça. Si nous sommes charnels, dominés par les pensées de la chair et les appétits de la chair, et bien qu'étant enfant, je parlais des chrétiens, hein, donc les appétits de la chair, excusez-moi, c'est un biblicisme, c'est des appétits de l'homme naturel livré à lui-même. J'ai envie de voler, je vole. J'ai envie de mentir, eh bien je mens correctement si j'ai envie de mentir. Je prends des exemples. Hein. Allez, dès que je suis pris en défaut, ce n'est pas moi, c'est une autre personne. C'est ça l'homme charnel, qui se livre aux pensées naturelles. Et bien qu'étant enfant, c'est sur ça que je veux insister. Bien qu'étant enfant, nous n'avons pas toujours les pensées de Dieu. Bien qu'étant enfant de Dieu, nous n'avons pas toujours les pensées de Dieu. Et vous l'avez compris, nous ne sommes pas vraiment propres et efficaces pour le royaume de Dieu. Oui, enfant, c'est certain, c'est sûr, c'est indéniable. Mais on est encore une charge pour les autres et on s'occupe de lui avec plaisir. Ça, c'est vrai. Mais il ne peut pas encore avoir certaines responsabilités. Il ne peut pas encore entrer dans les œuvres que le Père a préparées pour lui. Il est non opérationnel pour le Père. Alors j'ai une question pour moi et pour vous. Est-ce que je suis un bébé spirituel, malgré ma stature et ma carrure naturelle, humaine? Est-ce que je suis un bébé spirituel? Est-ce que je suis un enfant spirituel? Est-ce que je suis un homme spirituel? Et si je me la pose à moi, permettez-moi de vous la poser à vous. Êtes-vous des bébés spirituels? Êtes-vous des enfants spirituels? Êtes-vous des hommes et des femmes spirituels? Combien d'églises sont remplies de bébés spirituels? Combien d'églises sont remplies d'enfants spirituels? Combien d'églises sont des crèches? Combien d'églises efficace et non opérationnel pour Dieu. Je vous ai dit, mes amis, malgré tout l'amour, Dieu dit, Jésus, c'est celui qui fait, c'est mon trésor, celui qui fait toute mon affection. Mais même Dieu, il ne lâche pas Jésus, affronter le diable, les démons, la maladie, maladie incurable, la tempête, les orages, tant qu'il n'a pas 30 ans et qu'il n'est pas passé par les eaux du baptême. Il attend. Même Dieu. Suis-je plus grand que Jésus? C'est normal, et je vais dire quelque chose, c'est normal qu'il y ait un laps de temps entre le stade de bébé et le stade mature. C'est normal qu'il y ait un laps de temps. Parce que Maïlis n'est pas née à 18 ans. Avec 18 ans d'âge. Elle est née bébé. C'est normal! Mais il faut que ce laps de temps soit le plus court possible. Et la vérité spirituelle, c'est que la croissance spirituelle n'a aucune, dans ce sens-là, au niveau de la croissance, n'a aucune comparaison dans le temps, dans la chronologie, que la croissance physique et humaine. La croissance spirituelle, il suffit seulement d'avoir décidé dans son cœur qu'on veut être obéir, qu'on veut être un serviteur, qu'on veut être obéissant, que Jésus est son tout et on ne fera rien d'autre, dans sa volonté. Alors la croissance spirituelle, je vous dis quelque chose, elle est fulgurante. Il ne faut pas attendre 18 ans pour avoir la majorité. Non. La Bible nous dit que Paul étant arrivé, quelques jours après, 3 jours, il a rencontré Jésus. Il a été dans le jeûne, il s'est humilié. Quelques jours après, on le voit se fortifier et il se met à parler, alors qu'il était un meurtrier. C'est ça la croissance spirituelle. Il faut simplement le déclic dans le cœur, le vouloir. Elle peut être fulgurante. Mais, ça passe, je vais le dire, par la bonne disposition. C'est normal, je le dis bien, pour que les enfants, ceux qui sont enfants parce que, et bébés parce qu'ils sont bébés, parce qu'ils viennent de naître, et qui disent, oh là là, ça nous vient en pleine figure. C'est normal, il faut un certain laps de temps pour la croissance. Mais ce laps de temps doit être le plus court possible, et spirituellement, on peut aller avancer à pas de géant, et très rapidement. Que diriez-vous, mes amis, si je viens vers vous maintenant, j'ai un gros pampers sur moi, et je marche comme ça, et puis, j'ai un besoin naturel, j'enlève mon pampers, je m'accroupis, et puis je fais pipi là-bas, et puis, au lieu de parler, à mon grand âge, vous diriez, mes amis, il est attardé. Il a un problème. Il est handicapé. Pourtant, toutes ces choses que j'ai bibées, ce sont des comportements naturels d'enfants. Je suis heureux, je vous dis, quand j'ai un bébé de un mois, 2 mois, je regarde sa couche et il y a un gros cadeau et je suis content et je souris. Tu n'es pas constipé, mon bébé. Mais mes amis, invitez-moi chez vous et je vais faire mes besoins. Vous voyez que j'ai fait mes besoins devant tout le monde. Vous n'allez pas dire, oh mon ami chrétien, c'est très bien. C'est ça que je suis en train de vous dire. C'est normal qu'un enfant, un bébé ait un certain comportement. Ce n'est pas normal qu'une personne, à un moment donné, garde ce même comportement longtemps. Il a fallu que le Seigneur Jésus, notre Seigneur, soit jeune homme pour vaincre le malin, pour terrasser les forces du mal, pour imposer son royaume. Le Père ne le laisse pas, je l'ai dit, affronter toutes ces choses, car il n'a pas encore la carrure de jeune homme. Pourtant, il est déjà tellement motivé à 12 ans. Probablement que si le Père lui dit, tu veux y aller à 12 ans, il va dire oui, oui, oui. Et ça, c'est un problème. Parce que parfois, nous n'avons même pas ces motivations-là. Il faut avoir la motivation, mais ce n'est pas parce qu'on a la motivation. La motivation n'est pas tout. Il faut la motivation et la croissance. Ah, on me fait signe que je dois terminer dans 5 minutes. Mais je suis désolé, j'ai un poids dans mon cœur, je vais essayer. Le Père n'ouvre pas la porte du vrai combat tant que Jésus n'a pas la carrure de l'homme. Donc mes amis, je vais vous dire quelque chose. Écoutez bien. Entre 12 et 30 ans, malgré son désir ardent de servir le Père, les portes sont fermées. Et le Père le fait avec toute son autorité. Et si le Père ne pêche pas, le Père fait bien les choses. Mais les portes restent fermées. Alors, mes amis, combien de portes spirituelles restent fermées pour nous parce que nous n'avons pas embrassé la croissance? Jésus était appelé à faire toutes ses œuvres, mais il n'avait pas encore la croissance, les portes étaient fermées. Combien de portes spirituelles restent fermées pour nous parce que nous n'avons pas embrassé la croissance? Parce que ce serait un carnage, pas pour les autres, pas pour l'ennemi, mais un carnage pour moi si le Père ouvre les portes. Et que je rencontre les ennemis, je vais être ramassé à la petite cuillère. Je ne suis pas un lion. Parce que je ne suis pas un lion. Mais la Bible dit, je ne sais pas si vous avez ce verset, 1 Jean 2, 13, je peux montrer. Voilà, merci. Je vous ai écrit, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Je vous ai écrit Père parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit jeunes gens parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Amen. La volonté du Père, c'est quoi? C'est que nous soyons jeunes gens et jeunes femmes. Je vous ai écrit jeunes gens. Petits enfants, oui, vous avez connu le Père, gloire à Dieu. Mais c'est aux jeunes gens et aux jeunes hommes, jeunes femmes, à eux qui disent vous êtes forts. La parole de Dieu demeure en vous. Et vous avez vaincu le malin. Parfois on aime dire, parce qu'on a fait une prière, et on chante, j'ai vaincu le malin, j'ai vaincu le malin. Le malin, il ricane, il rigole. Tu ne veux pas t'attacher à la parole de Dieu, tu ne veux pas croître, et tu dis, tu as vaincu le malin. Jésus dit, je bâtirai mon église, et les portes du séjour de mort ne prévaudront pas contre elle. Ces ouvriers-là, ces serviteurs-là, ce sont les serviteurs qui peuvent fermer le ciel. Et ouvrir le ciel. C'est de ça qu'il est question. Des jeunes hommes forts et des jeunes femmes fortes. Qui veut se lever pour Dieu? Je crois en ces deux paroles prophétiques. Mes amis, on a longtemps, on brade parfois la vie chrétienne. On brade la vie évangélique. Et on croit qu'on peut admettre Dieu à toutes les sauces. Jésus disait, mes amis, excuse-moi Laurent, Jésus disait, j'ai dit, excuse-moi Laurent pour le temps. Jésus disait, le royaume de Dieu, c'est comme un trésor caché dans un champ. Celui qui le veut, il va, il vend tout ce qu'il a, il vient, il achète le champ pour garder le trésor. Ou encore, le royaume de Dieu est comme un marchand de perles qui a trouvé une perle de grand prix. Il est un marchand de perles, il est un connaisseur, il n'a que des perles superbes, mais il voit une qui est au-delà des autres. Il dit, je la veux, je la désire, c'est elle que j'aurai. Mais pour l'avoir, il faut qu'il aille se séparer de toutes ces autres perles et qu'il vienne choisir uniquement la perle de grand prix. Et nous, on croit parfois que être chrétien, on fait tout ce qu'on veut et à peine même, la perle dont on a envie de se séparer, souvent c'est plus le Seigneur. C'est une folie, ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique. Et Jésus dit, celui qui veut construire une tour, il doit s'asseoir, réfléchir. S'il n'est pas capable d'aller jusqu'au bout, qu'il s'arrête. La vie chrétienne, mes amis, ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu. C'est une, il faut avoir une telle détermination d'aimer Jésus, de suivre Jésus. C'est mon Seigneur. Sinon, on n'y arrivera pas. Parce qu'on ne peut pas suivre deux maîtres à la fois. On sera vite en train d'obéir à l'autre et qui ne sera pas Jésus. Comment bien croître? Comment bien croître? C'est, tout ça amène à ceci. Le Père a prévu notre croissance rapide, harmonieuse, glorieuse. Naturellement, dans le naturel, Marjorie et Alexis donnent à Maïlis du lait, du pain, de l'eau, du sucre, de tout ce que vous voulez, fruits. Spirituellement, laissez-moi vous dire que le Père a prévu la même chose. La même chose. Qui demande à ses parents avant de manger? Maman, qu'est-ce que tu as mis? Combien de grammes de sel tu as mis dans la sauce? Combien de t'as bien poivré la sauce? Tu as fait ceci? Je n'ai jamais vu un bébé. J'ai assisté à des naissances. Dès que le bébé est né, instinctivement, dès qu'il pleure, la maman le porte sur son sein. Je n'ai jamais entendu un bébé dire « Je ne vais pas téter parce que je n'ai pas confiance dans ce lait-là. » Au contraire, c'est surprenant, il n'a jamais fait ça, et on entend réflexe de succion. Il ne l'a jamais fait. Mais il a entièrement confiance, c'est même inné en lui, dans le lait de sa mère, dans le lait que sa maman va lui donner, soit le sein, soit le lait en boîte. Il a tellement confiance dans la panade qu'on lui donne. Tellement confiance. Il ne dit pas « Non, je ne mange pas. » Je n'ai jamais vu quelqu'un aller chez le boulanger et dire, au fait, dans ton pain là, combien de grammes à peu près de farine il y a? Combien de grammes d'eau il y a? Quelques pourcentages d'eau farineau? Vous allez, vous achetez le pain et vous le mangez. De même, il existe des aliments spirituels, indispensables et nécessaires. C'est eux que le Seigneur a prévus pour nous. Et ces aliments, je vais aller vite. J'en cite 4-5. Premier, la volonté. Deux, la parole, le lait pur. Trois, l'obéissance, donc être rempli du Saint-Esprit, les prières et la communion fraternelle. En premier lieu, Jésus dit, il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. Il faut avoir un ardent désir de servir Dieu, d'aimer Dieu. Il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. Ça me nourrit, ça me remplit. Je suis serviteur, je suis enfant de Dieu. Je veux m'occuper des enfants de mon Père. Comme Baïlis qui irait devant sa maman, qui a deux gros sacs, et elle dit, maman, laisse-moi porter. Sa maman ne va pas laisser qu'elle porte, mais sa maman est réjouie de savoir qu'elle veut porter avec elle. Deuxième aliment, la parole de Dieu. La parole de Dieu. Oh, mes amis, j'ai été choqué une fois de voir un chrétien à mon boulot. Il me dit, je suis chrétien. Oh, j'étais content, j'étais réjoui. Alors, qu'est-ce que tu aimes bien dans la parole? Est-ce que tu lis souvent? Mais moi, je ne lis jamais la Bible. Qui me répond? C'est la vérité que je vous dis. Il dit, ah bon, mon frère? Et comment tu fais pour te nourrir? Oh, j'écoute la louange. La parole de Dieu. On peut montrer ce verset. Comme des enfants nouveau-nés, désirez ardemment le lait pur de la parole, afin qu'il vous fasse quoi? Grandir. Grandir en vue du salut. Mes amis, on ne va pas aller loin sans la parole. Aimez la parole de Dieu. On peut montrer l'autre verset, on va vite. Merci. Combien j'aime ta loi, c'est-à-dire ta parole. Combien j'aime ta parole. Elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Tous les jours, tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis, car je les ai toujours avec moi. Je suis même plus instruit que tous mes maîtres, parce que ta loi, tes préceptes sont l'objet de ma méditation. J'ai même plus d'intelligence que des vieillards, parce que j'observe tes commandements, tes ordonnances. Mes amis, je vous encourage à aimer la parole de Dieu. Autre élément, être rempli du Saint-Esprit. Ne vous enivrez pas de vin, nous dit la Bible, mais soyez, c'est de la débauche, soyez au contraire rempli de l'Esprit. On dit pas, ne buvez pas d'alcool, ça je ne l'ai pas dit. Mais ne soyez pas ivres par le vin. En fait, la Bible, quand elle dit ça, elle dit, l'ivresse du vin n'est pas bonne. Mais il y a une autre ivresse qui est bonne, l'ivresse du Saint-Esprit. Soyez rempli du Saint-Esprit, c'est ce que la Bible dit. Elle utilise l'exemple de l'ivresse du vin pour parler de l'ivresse du Saint-Esprit. Et quoi encore? Il faut un autre élément très important. De même que Marjorie, quand elle cuisine, quand elle prépare, elle donne des choses bonnes à Maïlis, mais elle ne veut pas que Maïlis mange des chardons, mange des champignons vénéneux, mange des choses qui ne sont pas bonnes. Il faut éloigner tout ce qui est nocif. Tout ce qui est nocif pour la croissance. Ne pas aimer le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Ne pas aimer le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Quand on parle de monde ici, on parle des choses véhiculées par le prince de ce monde. Je parle à des chrétiens, j'ai dit, c'est-à-dire Satan. Car la Bible dit, je peux mettre le verset s'il te plaît. Merci. Tout ce qui est dans le monde, manifesté par la convoitise des yeux. Oh, je veux avoir la voiture, pourquoi je n'ai pas une voiture comme lui? Pourquoi je n'ai pas une femme aussi belle que lui? Pourquoi je n'ai pas un mari aussi beau que lui? Pourquoi est-ce que sa femme, elle lui fait des cadeaux tous les jours? La mienne ne m'en fait pas. La convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie, tout cela ne vient pas de Dieu. Ça vient du diable. Il faut fuir toutes ces choses-là. Fuir toutes ces choses. Si Dieu sera nocif, elles vont nous empêcher de croître. Et la troisième chose, autre chose, autre aliment, la communion fraternelle. Avoir une communion fraternelle, des moments ensemble, mes amis, c'est bon. C'est bon. C'est bon, il est doux et agréable pour des frères de rester ensemble. C'est là que le Seigneur envoie sa bénédiction. Il nous dit, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Chantez et célébrez Dieu ensemble de tout votre cœur. Les louanges du Seigneur. Les partenaires. La Bible nous dit, c'est quoi le secret de l'église primitive qui a bouleversé le monde? Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Ils persévéraient ensemble dans la communion fraternelle. Ils persévéraient dans la fraction du pain. Ils persévéraient dans les prières. Ils persévéraient. Et qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas eux qui le voulaient. La crainte de Dieu s'emparait de chacun. Et la vie de Dieu se manifestait. Des miracles et des prodiges. Oh mes amis. Que nous puissions comprendre cela. Nous avons besoin de la communion. Nous avons besoin des frères et des sœurs qui disent, continuons. Dieu, attendons encore. Élie a prié 7 fois d'abord. La pluie n'est pas venue arriver quand il a prié pour la première fois. Elle n'est pas arrivée quand il a prié pour la deuxième fois. Elle n'est pas arrivée quand il a prié pour la troisième fois. Continue de prier comme Élie. Ah, d'accord, j'allais me décourager, mon frère. Donc je dois continuer. Oui, tu dois continuer. Ok, je continue. Nous avons besoin de cela. Nous avons besoin des maris au milieu de nous. Marie qui dit à Jésus, parce qu'elle est excédée, elle n'en peut plus. On lui a dit tellement de choses. L'ange lui a raconté il y a 30 ans, c'est lui le sauveur, c'est lui le fils de David, c'est lui le Messie. Et elle ne voit rien, absolument rien. Et elle est complètement, elle est triste. Au point que ce n'est même pas un malade, ce n'est pas un mort, ce n'est pas un lépreux, c'est juste du vin qu'il faut. Et elle dit, ils n'ont plus de vin. Réveille-toi, ils n'ont plus de vin. Va leur donner du vin, tu es le Messie, tu es le Christ. Et Jésus dit, ok, ça va, je vais aller donner du vin. Nous avons besoin de Marie à côté de nous pour dire, tu n'es pas encore vraiment dans ton ministère, tu n'es pas encore vraiment au degré là où que Dieu voulait pour toi, tu n'es pas encore vraiment, tu n'as pas atteint le seuil que Dieu a mis pour toi. Vas-y, espoir, continue, espoir, vas-y, Laurent, vas-y, Michel Poulet, continue, on va continuer à prier pour toi. Nous avons besoin de Marie. Que nous puissions croiser des maris, que nous soyons les maris les uns des autres. Marie, je parle de Marie, vous avez compris, hein, je pense. Marie, la maman de Jésus. Plus, et puis, dans tout ce que j'ai dit, mes amis, je vais m'arrêter là. Vous avez compris, ce n'est pas seulement la croissance. Il faut aussi que l'enfant et le bébé, dès son jeune âge, acceptent cette croissance et tout ce que le papa a prévu pour lui. Il faut qu'il accepte les lois de la maison. Il faut qu'il accepte les règles de la maison. Il faut qu'il accepte les règles de la maison de Dieu. Il faut qu'il accepte l'éducation donnée par la maison de Dieu. Donc, c'est vrai, c'est la croissance. Mais plus que la croissance, c'est accepter l'éducation que Dieu a prévue pour nous. C'est vraiment ça, pour nous faire grandir. Alors, je crois vraiment à ces paroles prophétiques qui ont été données. Cherchez et vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira. Demandez et on vous donnera. Ce sont les violents qui s'en emparent. Mes amis, soyons violents pour désirer la croissance. Parce que c'est cette croissance-là qui glorifie Dieu. Parce que c'est cette croissance-là qui terrasse l'ennemi. Je vous écris parce que vous êtes les jeunes hommes et les jeunes femmes. Vous êtes forts. Vous avez vaincu le malin. C'est vous. Les enfants et les bébés, ils ont connu le père, mais ils n'ont pas vaincu. Ils sont encore vulnérables. Ils sont emporté par tout vent de doctrine. Mais vous, si vous grandissez, vous serez vraiment l'église que Dieu a prévue. L'église qui terrasse l'ennemi. L'église dont l'enfer a peur. Et Jésus a dit, mon église, le séjour de la mort, ne pourra point les portes de l'enfer contre elle. Alors, je termine par là. Je demande simplement, s'il y a quelques personnes, parce que je l'ai vraiment en fond dans mon cœur, qui veulent grandir, qui veulent rentrer dans ce programme-là, qu'elles se mettent debout, simplement, debout. S'il y a quelques personnes, la Bible dit aujourd'hui, en tout cas, est le jour du salut. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Si vous voulez rentrer dans ce programme de croissance, mettez-vous debout. Parce qu'aujourd'hui, il y a quelque chose. Le Seigneur, il envoie sa parole, et le Seigneur, il est fidèle à sa parole, et le Seigneur, il veille sur sa parole pour l'accomplir. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Mais si vous n'avez pas envie, ne vous mettez pas debout. Parce que Dieu connaît les cœurs. Dieu sonde les cœurs. Et personne ne vous regarde. Chacun regarde pour lui, à lui. Personne ne vous regarde, chacun regarde à lui. Les vierges sages, elles ont dit, nous n'en avons que pour nous. Elles ne regardent pas celles qui ont les vierges folles. Nous n'en avons, chacun regarde pour lui. Si vous voulez rentrer dans ce programme-là de croissance, je crois que c'est pour cela que Dieu a mis ce fardeau dans le cœur. Mais si vous le voulez de tout votre cœur, mettez-vous debout. Tout en sachant tout ce que j'ai dit, que ça nécessite de notre part. Il a mis des aliments. Et ces aliments sont la parole de Dieu. Ces aliments sont la communion. Ces aliments sont une ferme volonté, un ferme désir de suivre Jésus. Un ferme désir, un ardent désir de l'aimer de plus en plus, de vouloir le rencontrer, de le chérir. Alors mettez-vous debout. Et sachant que votre croissance ne sera pas complète s'il n'y a pas de communion entre frères et sœurs, parce que Dieu l'a voulu ainsi, parce que Dieu a dit, il est bon, il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est là que l'Éternel envoie sa bénédiction en abondance. Donc nous avons besoin de nous voir ensemble, nous avons besoin de prier ensemble, nous avons besoin de louer et Dieu ensemble, pas seulement le dimanche. Alors, mes amis, de vous-même, dites à votre Dieu, déjà, que vous voulez la croissance, vous voulez vous engager dans ce programme-là. S'il y a des choses à présenter devant lui dire, Seigneur, jusqu'à présent, je ne me gênais pas vraiment pour ta parole au sérieux, je veux la prendre. Faites-le, parce que Dieu est un Dieu saint, Dieu est un Dieu juste. Laetitia, j'ai aimé ta parole, la parole d'Amos. On aime souvent dire, se rencontrer, se réunir, et dire, Dieu béni, Dieu béni. Mais Dieu peut parfois dire, vos fêtes, je les ai en horreur. Dieu peut parfois dire, vos assemblées me dégoûtent, parce que dans vos cœurs, dans mon cœur, on n'a pas la ferme décision, on ne veut pas le servir, parce qu'on est juste là pour l'apparence. Dieu veut des passionnés. Et donc c'est comme ça, quand nous sommes passionnés par Dieu, nos fêtes lui sont une odeur agréable, un sacrifice agréable. Alors, dites à votre Dieu, déjà vous-même, chacun pour sa part, dites à son Dieu, Seigneur, je veux cette croissance. Seigneur, je veux cette croissance. Seigneur, je suis désolé, je ne veux pas que certaines portes qui étaient destinées, qui étaient pour moi, me restent fermées jusqu'à la fin de ma vie. Je veux rentrer dans ces portes-là que tu as choisies. Je veux faire ces bonnes œuvres que tu as préparées pour moi. J'ai compris que pour cela, il faut que je croisse. Seigneur, aide-moi. Que chacun prie un peu dans son cœur déjà, et puis après je vais prier. Que chacun soupire après son Dieu. Présente avec son Dieu ses moments de prière, ses moments de lecture de la parole. Que chacun présente son désir d'être avec Dieu, à Dieu. Que chacun présente son désir, que chacun regarde sa vie de communion fraternelle et qu'il la présente devant Dieu. Et Dieu est en train de changer, et Dieu veut changer, et Dieu veut souffler. Et l'Esprit souffle, mais pour convaincre, pour appeler, pour fortifier, pour édifier, pour encourager. C'est ça le rôle de l'Esprit. Mais il ne faut pas moins que ça pour servir efficacement. Il ne faut pas moins que ça pour servir efficacement. Dites à votre Dieu que vous voulez la croissance. Que vous voulez vous occuper de ses affaires, comme a dit Jésus. Que vous voulez de tout votre cœur une relation et une intimité totale avec lui. Que vous voulez le rechercher tôt le matin ou tard le soir. Vous voulez être rempli de lui. Que vous voulez être, vous ne voulez pas rester bébé. Vous voulez être des jeunes hommes et des jeunes femmes. Vous voulez accomplir ce que Dieu a prévu pour l'Église. Vous voulez accomplir ce que Dieu a prévu pour l'Église. Alléluia, alléluia, alléluia. Je te bénis, mon Père et notre Père. Je te bénis, mon Dieu et notre Dieu. Merci pour ce grand nombre de personnes. Et je crois à leur engagement, qui veulent s'engager dans la croissance, qui ont compris que ce n'est pas tout que d'être enfant. On est enfant, c'est sûr, c'est certain, mais est-ce qu'on est mature? Est-ce qu'on est mature spirituellement? Est-ce qu'on est engagé dans tes choses spirituellement? Est-ce que tu peux nous confier déjà des choses? Est-ce que tu peux ouvrir des portes pour nous? Seigneur, nous venons tous devant toi, moi aussi, Seigneur, parce que nous aspirons à la croissance. Nous aspirons à la croissance. Nous avons compris que c'est ce que tu veux pour nous. Seigneur, merci parce que tu nous as donné ta parole. Oh, merci pour ta parole. Seigneur, nous voulons aimer ta parole. Nous voulons chérir ta parole. Seigneur, nous voulons avoir une relation plus intime avec toi, plus dynamique avec toi. Seigneur, nous comprenons que nous avons besoin des frères et des sœurs. Nous voulons une communion fraternelle. Seigneur, nous ne voulons pas partir sans avoir accompli l'œuvre que tu voulais qu'on accomplisse. Nous ne voulons pas que tu fermes les portes en disant, ce n'est pas encore pour eux. Ils ne sont pas prêts. Pourtant, j'avais prévu ces portes pour eux. Seigneur, Seigneur, tu vois notre petit engagement aujourd'hui. Je te supplie, notre Dieu, fidèle, qui ne néglige pas les petits commencements, accompagne-nous dans cet engagement. Accompagne-nous dans cet engagement. Renouvelle-nous dans cet engagement, Seigneur. Fortifie-nous dans cet engagement, Seigneur. Pour ta gloire, pour que Jésus-Christ soit glorifié dans nos vies, dans nos familles, dans notre communauté, dans notre ville. Et pour que la gloire lui revienne. Et mon Dieu, je te supplie, afin que les portes du séjour de mort, comme tu as dit, soient impuissantes devant ton Église. Au nom de Jésus-Christ. Merci parce que tu as accompli ta parole. Amen.